RMC Team Duga, le Duga Tour des clubs, Bordeaux.
Moi je dénonce les choses depuis des années. Oui. Alors c'est toujours mon camp en plein la tronche.
Ah, Duga il est pas Bordeaux, Duga c'est Duga là.
Et... Kylian qui va le redonner à Dugarry dans la surface.
Allez,
frappe et but. Oh, quel but. Christophe Dugarry, 3-0 pour Bordeaux.
C'est beau.
Incroyable époque. Ouais. C'est dingue.
Ah, c'était l'OSS.
Alors, dernière semaine donc du Duga Tour des clubs. Jusqu'à vendredi, on continue d'évoquer la saison d'un des clubs de Ligue 1 de la saison prochaine. Il nous reste le PSG, Amiens, Angers, Nice et donc Bordeaux ce soir. On est en direct avec Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Bon, attention, Nicolas. Vous avez la pression parce que Bordeaux, Duga, bon voilà, là il maîtrise. Hein.
Oh,
autant
sur
d'autres clubs.
Ouais, j'ai joué quelques années, ouais. J'ai batifolé.
Voilà. Sur d'autres clubs, on pouvait le balader, mais sur Bordeaux, a priori, ouais, il est bien.
Sûr, ouais.
Donc, on évoque à chaque fois la saison qui vient de s'écouler et celle qui arrive pour l'un des clubs de Ligue 1 avec un suiveur de la presse régionale. Bordeaux, 14e de Ligue 1, qui a connu une saison avec plein de rebondissements. Trois entraîneurs, deux directions, de Poyet en début de saison, du haut Bédoué Ricardo à Souza, donc arrivé avec les nouveaux dirigeants américains qui ont succédé à M6. Beaucoup de choses à digérer cette saison, hein, Duga.
Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Après, j'appelais un changement, moi de mes voeux. J'avais le sentiment que Bordeaux ne pouvait plus continuer à être un club transparent en Ligue 1. Année après année, c'est difficile à vivre en tant qu'ancien joueur, en tant que Bordelais, en tant que supporter de ce club. Voilà, et puis je vois tous les week-ends, hein, quand je rentre à Bordeaux, les gens autour de moi qui sont usés et qui préfèrent aller voir le rugby. Alors tant mieux pour le rugby, hein, cette équipe de Bègles nous fait beaucoup de bien, mais c'est difficile à vivre. Donc moi j'ai appelé un changement de tous mes voeux, et ce changement il a lieu alors avec un projet qui est en train de se mettre en place. Alors la particularité malgré tout de ce projet, c'est qu'il y a beaucoup de chefs, beaucoup de responsables, des postes ont été créés, des postes ont été désignés. Je te cache pas que j'ai du mal à y voir clair. Je comprends la méthode qui est en train de se mettre en place, qui est quand même assez dure avec les anciens. Alors moi je disais aussi qu'il y avait trop d'employés dans ce club, trop de gens qui servaient à rien, trop de gens, alors je vais pas dire qu'ils étaient planqués parce que c'est pas le mot, mais il fallait remettre un coup de pied un petit peu dans la fourmilière pour remobiliser tout le monde, pour retrouver un projet, pour retrouver une envie, mettre des gens motivés à des postes importants. Voilà, je sentais qu'il fallait reprendre en main un petit peu ce club. Là il y a des nouvelles méthodes qui sont en train de se mettre en place au détriment entre guillemets, petit personnel. Attention quand même à leur façon de faire. Les Américains, ils arrivent, ils bousculent tout le monde et ils se disent, nous, on va y arriver, on est plus fort que tout le monde. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est qu'ils essaient de bousculer tout avec zéro moyen. Pour l'instant, rien n'a été annoncé, rien n'a été affiché, aucune somme pour le recrutement, aucune somme aucune pour le projet à mettre en place. Il n'y a rien pour l'instant qui a été décidé à ce niveau-là. Donc, il va falloir qu'il soit très très fort. Alors si Corinne Diacre doit être une magicienne, là, il va falloir que les Américains aussi soient Copperfield, peut-être va être engagé pour faire des miracles, parce que là je vois pas comment on peut faire avec zéro franc. Ça me paraît compliqué.
Alors, Nicolas le gardien de Sud-Ouest.
C'est un peu inexact dans le sens où il y a déjà eu de l'investissement de fait quelque part pour faire face au déficit cette saison, pour recruter effectivement tous les gens qui sont arrivés au club. Il y a eu un gros investissement de fait. C'est un projet qui est assez particulier puisque Joe Dagrossa l'avait annoncé dès le départ. Où finalement, son objectif, c'était pas forcément de mettre de l'argent sur des stars, sur des joueurs reconnus, mais d'abord sur l'encadrement, pour reprendre tes mots, c'était de mettre les bonnes personnes et les compétences là où ils jugeaient qu'il y en avait besoin, et qu'après, ça serait à ces personnes-là, finalement, de transformer l'entreprise comme peut faire un fonds d'investissement dans d'autres secteurs, pour en faire une entreprise qui au pire ne perd plus d'argent et du coup la valoriser et forcément à terme l'objectif de la revendre plus cher ou même de gagner de l'argent avec, ce qui semble un peu difficile avec un club de football, mais certains clubs y parviennent grâce au trading. Donc finalement il fait ce qu'il avait plus ou moins dit dès le départ. Donc l'argent il y en a, apparemment il a été investi aujourd'hui déjà pour faire face au déficit de cette saison qui est structurel depuis 9 ans en Girondin. Quand même on tourne quand même à un déficit moyen entre 10 et 30 millions d'euros depuis 9 ans. Et donc sur les...
Il a amené une caution où il a mis véritablement des sous, parce qu'il a mis des sous pour acheter le club, mais après, comme a fait M6 pendant des années, il ne mettait pas 30 millions.
L'argent dont je parle qui a été mis sur la table, c'est du crédit. Mais en fait, l'argent qui a été utilisé pour acheter le club, il y a une partie qui vient du GACP, qui est un des actionnaires, mais qui est actionnaire minoritaire, mais un actionnaire manager, ce qu'on appelle. Et l'actionnaire majoritaire qui a mis 50 millions d'euros, qui est un très gros fonds d'investissement américain, qui s'appelle King Street, qui lui a finalement amené l'argent et supervise un peu la gestion sans rentrer directement dans la gestion, même s'il valide toutes les décisions. Donc GACP, l'autre actionnaire qui est minoritaire, qui lui manage le projet. Et ils ont amené à ce moment-là ces 50 millions du côté de King Street et de mémoire, ça doit être 5 millions du côté de GACP. En plus, ils ont fait un premier prêt, donc qui a amené l'argent supplémentaire pour la fin de l'achat du club et qui a mis de l'argent dans la trésorerie cette saison, de l'argent qui a été utilisé pour le recrutement du nouveau staff, pour les départs de l'ancien staff, pour le recrutement de cadres administratifs, etc. Donc cet argent a été investi là-dedans. Mais aujourd'hui, le club est structurellement déficitaire. La trésorerie qui a été apportée par le premier emprunt a été utilisée. Et donc maintenant, ils ont une autre possibilité d'un deuxième emprunt qui est disponible, mais donc sera crédit, pour éventuellement continuer à investir ou pour continuer à faire face au déficit qui risque d'être le cas la saison prochaine, en attendant l'augmentation des droits TV, sauf énorme vente qui leur permettrait d'équilibrer les ventes.
Donc faut se préparer à une année qui arrive encore galère, ou du moins avec une équipe en construction, avec beaucoup de jeunes joueurs.
Exactement. Bah, disons que j'ai envie de dire que l'exemple aujourd'hui pour Bordeaux à suivre et l'exemple dont les Bordelais rêveraient, c'est le Lille de la saison dernière. C'est-à-dire que Lille de la saison dernière, si on prend de mémoire, ils avaient acheté pour 8 millions, ils avaient vendu pour 40. Et ils ont fini deuxième du championnat. Donc avec des joueurs libres, avec une masse salariale encadrée.
Et oui, sachant que l'année d'avant, ils avaient acheté quand même pour 50 ou 60 millions d'euros. Ils ont pas acheté que ça, 8 millions.
Si tu prends du gars, par exemple, que j'avais fait le papier, si tu prends l'équipe qui avait battu le PSG 5-0 de Lille, il y avait 7 joueurs qui étaient arrivés l'été précédent. Il y avait que 4 joueurs de la première année. En fait, la première année, ils ont énormément investi sur des joueurs qui finalement ont été décevants et se sont retrouvés remplaçants. Et la deuxième année, finalement, ils ont recruté pour beaucoup moins cher avec des très bons coups, hein, comme on pense à Fonté notamment, en s'appuyant effectivement sur l'éclosion de Pépé. Mais Bamba est arrivé libre, Iconé est arrivé pour de 4 millions d'euros, je crois, ou 5 millions d'euros. Donc c'est des joueurs finalement qui n'ont pas coûté cher. Donc l'exemple parfait pour Bordeaux, ça serait de réussir finalement la même construction qu'a réussi Lille avec Luis Campos et Christophe Galtier. Maintenant la question, c'est est-ce que Eduardo Macia, qui va être chargé du recrutement pour les Girondins,
bon
et Paulo Sousa vont être aussi bons et inspirés qu'ont pu être Luis Campos et Christophe Galtier à Lille l'année prochaine, l'année dernière, pardon.
Jérôme, qu'est-ce qui t'inspire toi, ce projet bordelais là, le virage qu'il est en train de prendre?
Écoute, j'attends de voir, mais comme beaucoup de clubs, de toute façon, malheureusement aujourd'hui, t'es obligé de faire confiance. Déjà restructuré, comme le meilleur exemple pour tous ces clubs, comme Bordeaux, c'est Lille, bien sûr, mais Lille avec beaucoup de réussite, hein, parce que personne s'y attendait à ce que ça prenne comme ça. Est-ce que il va y avoir de la continuité déjà à Lille? Est-ce que Bordeaux va réussir à relever la tête? En effet, on s'attend encore à une année très compliquée l'année prochaine, parce que t'as beau restructurer, et il fallait le faire, et du gain l'a très bien dit aussi, mais après
faut du temps derrière.
Non, mais il faut les joueurs, quoi. Il faut les joueurs. Oui. Quel effectif
aujourd'hui? Ça va être une année compliquée et super importante, dans le sens où c'est elle qui doit aussi lancer le projet. C'est-à-dire que si les choix sportifs sont pas bons, si financièrement la courbe ne commence pas à se tasser et continue d'empirer, forcément déjà le projet va prendre un coup. Si en revanche le projet sportif rend bien, il y a une base, qu'il y a quelque chose qui se crée, un enthousiasme. Logiquement, ça leur permet de valoriser l'effectif, peut-être de faire par une vente aussi de remettre de l'argent dans le circuit, et avec aussi une augmentation des droits TV. C'est rentrer dans un cercle vertueux qui permettrait de développer le projet, sachant qu'il y a un gros effort qui est fait également, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais sur le centre de formation. Alors le centre de formation à Bordeaux, c'est un débat sur les dernières années. On peut y débattre, mais en tout cas, ils ont décidé de changer énormément de choses, d'apporter des nouveaux éducateurs. Ils ont des idées, ils ont une méthode qu'ils veulent mettre en place. Donc ça, forcément, ça se...
Mais combien de changements
dans un an? Mais le but du jeu, c'est de sortir de plus en plus de joueurs, et forcément aussi derrière, après, d'en tirer aussi un désavantage sportif et forcément financier.
Non mais on entend tout ça, mais combien il y a de changements par rapport à l'effectif de l'année dernière?
Pour l'instant aucun, mais moi pour l'instant on est dans un il y a la volonté de faire une dizaine de changements. Mais aujourd'hui, on est dans un marché qui, pour l'instant, est très bloqué. Donc, il y a deux joueurs qui sont arrivés. Il y a Mixer de Rennes et Kouateng de Nantes, qui sont des joueurs qui sont arrivés libres. Et c'est vrai que pour l'instant, on est sur un marché qui est assez bloqué dans le sens des arrivées comme des départs. Et donc, tant que le marché finalement sera pas parti à Bordeaux comme ailleurs, c'est pour l'instant, il n'y a pas trop de changements. Et vous prenez tous les clubs. Strasbourg a pris l'entraînement hier avec quasi le même effectif, alors qu'ils attendent 5 recrues. Là, avec les compétitions internationales, des championnats sur le marché, fait que pour l'instant, c'est un peu bloqué. Donc, ça va partir à un moment. Maintenant, le changement, il va être fait avec des joueurs qui ne sont pas des stars. Donc, il y aura quelques joueurs expérimentés, pas mal de jeunes. Donc, c'est où ils ont le nez fin sur le recrutement, ils trouvent vraiment des super mecs et il faut vraiment avoir le nez fin et faire des super coups. Ils arrivent à faire prendre la mayonnaise et ça va prendre. Ou alors, ça peut être effectivement très compliqué dans une année où il y a beaucoup de clubs qui, avec justement la perspective des droits télé dans un an, beaucoup de clubs qui vont se renforcer, qui vont, prendre quelques risques financiers pour être costauds, qui vont garder leurs meilleurs joueurs justement parce qu'ils savent que, en fin de saison prochaine, ça sera très important de rester en Ligue 1. Donc, forcément, ça va pas être. Donc après, c'est le pari entre guillemets du projet des Américains.
Merci beaucoup Nicolas.
Merci Nicolas.
C'était très intéressant. Nicolas Le Gardien donc de Sud-Ouest. À bientôt.
À bientôt.
Et l'actu des Girondins bien sûr donc dans Sud-Ouest.
Il faut un magicien.
C'est plus un Garcimore qui foirait deux fois sur trois ses étrues. Bon, à mon avis,
c'est vrai. C'est la petite souris qui sort de l'échappement.
Belle imitation.
Bonne imitation, oui, bravo, du gars, c'est bien.
Non, j'imitais Roland Courbis qui parle italien.
L'actu des Girondins, donc dans le Sud-Ouest, on remercie Nicolas Le Gardien. Je précise quand même que sur l'organigramme, Nicolas Paul Orsi, notre correspondant, t'avais expliqué, du gars. À la fin, t'avais dit que t'avais compris, visiblement.
Oui,
faudrait qu'il repasse, Nico.
Non, mais ils ont mis beaucoup de moyens sur les dirigeants, les directeurs entre guillemets sur la structure, voilà. Après, il va falloir qu'ils soient très très forts.
Exactement. Dans un instant, le journal moyen. À tout de suite.